Philippe Le Caplin.
Olivier Costa, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po. On le disait tout à l'heure dans le journal, un 53e militaire français a été tué au combat au Sahel depuis 2013 et c'est le premier à tomber cette année. Décès du brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie à Gao dans le nord du Mali alors que plusieurs autres soldats ont été blessés. Yvan Attal, porte-parole du gouvernement, s'exprimait quelques heures après l'annonce de cette disparition.
Vous avez aujourd'hui effectivement une junte qui semble privilégier son maintien au pouvoir à la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas d'ailleurs un sujet entre la France et le Mali, c'est un sujet entre le Mali et l'ensemble de ses partenaires. Nous faisons partie d'une force européenne, la force Takuba, avec une dizaine de pays européens qui se sont engagés. Les Italiens viennent de nous rejoindre, je crois que les Danois vont nous rejoindre aussi.
On a vu un net désengagement progressif. Est-ce que ça ne serait pas plus honnête de dire que, en gros, on n'a plus rien à faire là-bas ?
Certains, par facilité, peuvent brandir ça. Mais la réalité, c'est que derrière, c'est le risque d'avoir des bases arrières du terrorisme qui se développent dans certains pays et qui organisent ensuite des attaques sur notre sol. Et donc, évidemment, qu'on doit continuer à lutter contre le terrorisme en adaptant notre présence.
Propos tenus sur l'antenne de France Inter. Quant à Marine Le Pen, candidate du RN pour la présidentielle, elle dénonce le fait que la France ne bénéficie pas de plus d'appui dans sa lutte contre le djihadisme en Afrique.
En réalité, nous sommes seuls là-bas. C'est-à-dire que la défense européenne dont Emmanuel Macron parle beaucoup, on ne la voit pas au Mali pour lutter contre les groupes armés terroristes. Les Français sont tout seuls. Il faut soit convaincre l'Union européenne que nous défendons l'ensemble de l'Europe en luttant contre les terroristes islamistes et que donc il est absolument inadmissible que nous soyons seuls là-bas, que nous financions d'ailleurs seuls l'ensemble de ces mesures de sécurité. Et il faut revoir le périmètre, encore une fois, de notre action. Car nous laisser là-bas en restreignant, encore une fois, notre présence, c'est évidemment aujourd'hui mettre nos soldats en danger.
Marine Le Pen sur l'antenne de France 3. Olivier Costa, il vient d'être question de l'Europe, alors que la France est la première impliquée au Sahel, et alors qu'elle prend la présidence de l'Union européenne pour 6 mois.
Oui, c'est un dossier qui est très compliqué parce que les Européens, les 27 États membres de l'Union européenne ont des traditions et des approches, des questions de défense et de sécurité qui sont très très différentes. Et c'est la raison pour laquelle depuis 30 ans qu'on discute de politique de défense et de sécurité, on avance, mais doucement. On a en Europe des pays qui ont des traditions d'intervention extérieure comme la France. On a des pays qui n'ont pas une grosse armée et qui ne consacrent pas beaucoup de moyens financiers à leur défense. Et on a aussi des pays qui sont neutres et qui ne considèrent pas qu'il faut aller à l'étranger jouer les gardiens de la paix. Donc dans ce contexte-là, arriver à définir une politique européenne en la matière, c'est excessivement difficile.
Dans quelques heures, le pass vaccinal entre en vigueur en France. Son adoption a fait d'abord l'objet de vives polémiques. Et encore aujourd'hui, Éric Ciotti du parti LR, les Républicains, dénonce la politique sanitaire du gouvernement.
L'exécutif, derrière Monsieur Macron, à la demande de Monsieur Macron, utilise la crise sanitaire comme un instrument de politique politicienne. La réalité, elle est là. Les décisions, elles ne sont pas prises. Hélas, en fonction de la situation sanitaire, elles sont prises pour éviter qu'on parle d'autres sujets et pour faire en sorte que ça soit un argument pour la réélection d'Emmanuel Macron. Je dirais que c'est insupportable et indigne. Comment on peut demander aux Français des efforts au début du mois de janvier et arriver finalement la fleur au fusil fin janvier en disant « mais non, on va relâcher, on enlève tout ça ». Les Français n'y comprennent plus rien.
À l'inverse, bien sûr, Yvan Attal du gouvernement avec ce qu'il disait sur France Inter.
Dans un certain nombre de pays autour de nous, en Belgique, vous avez eu des choix de fermeture de restaurants, de couvre-feu, de fermeture des écoles. On a assumé de laisser le pays ouvert et on a eu raison de le faire. L'hôpital n'a pas été débordé, c'est tendu et donc évidemment on continue à faire très attention. Mais oui, aujourd'hui, parce que la vague Delta a nettement diminué, parce que la pression sur nos services de réanimation tend à baisser, on peut en responsabilité lever un certain nombre des dernières restrictions qui restent, mais aussi parce que le pass vaccinal arrive. Tout ça est évidemment lié.
Par ailleurs, il est plausible que l'Europe se rapproche d'une fin de la pandémie, annonce ce soir du directeur de l'OMS Europe. Ce serait une très bonne nouvelle pour nous tous, bien évidemment, Olivier Costa, et bien sûr pour les dirigeants politiques qui ne doivent plus en pouvoir de gérer cette crise.
Oui, bah, la politique, d'une manière générale, c'est pas un exercice qui est facile, mais quand on est face à un inconnu comme cette crise du Covid, dont vous disiez que l'OMS annonce la fin de la pandémie, enfin, sauf s'il y a un nouveau variant et que c'est reparti pour un tour. Donc, c'est excessivement difficile pour les pouvoirs publics de trouver le bon tempo sur ces questions-là, d'arriver à trouver un équilibre entre les impératifs de santé publique et le respect des libertés individuelles. Quant à ce que disait M. Ciotti sur le fait qu'Emmanuel Macron se sert de la pandémie pour faire campagne, on pourrait lui retourner le compliment. On a quand même un certain nombre de responsables politiques en France qui passent leur temps à dénoncer l'action du gouvernement et des autorités publiques et des autorités sanitaires pour essayer de faire monter un peu la pression.
À propos du pass vaccinal, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, le député République En Marche, Romain Gros, a été agressé hier à Perpignan avec deux autres personnes par manifestants qui protestaient contre le pass sanitaire. Ça devient de plus en plus courant. C'est-à-dire que le personnel politique aujourd'hui est complètement désacralisé, on va dire. Il n'est plus protégé par cette espèce d'aura politique que lui accordait le fait d'être élu.
Oui, mais je pense qu'on est dans... Bon, le mouvement n'est pas nouveau. Ça fait une quinzaine d'années, je dirais, que les institutions ont perdu l'autorité qu'elles pouvaient avoir. Mais il faut voir aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent leur temps, d'une certaine manière, à remettre en cause cette autorité, et donc de citoyens qui se sentent fondés à venir interpeller un député dans sa permanence pour l'invectiver ou lui menacer de lui casser la figure s'il ne fait pas ceci ou cela. Effectivement, la démocratie représentative file un mauvais coton, et bon, c'est une situation qui n'est pas propre à la France, mais qui interpelle réellement un peu partout pour la possibilité de continuer à fonctionner ainsi.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Catelin.
Si le pouvoir d'achat est le principal sujet de préoccupation des Français, l'immigration l'est également. Le droit d'asile, le candidat communiste à la présidentielle Stéphane Roussel en parlait ce midi sur l'antenne de RTL.
Je dis que le droit d'asile, il faut le réformer et garantir aujourd'hui l'accueil de ceux qui fuient la guerre. Je dis aussi que les travailleurs sans papier qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, qui payent des cotisations et qui payent des impôts, ils payent des cotisations et ils n'ont pas le droit de rester sur le territoire.
Vous dites qu'il faut réformer.
Il n'y a que nous à gauche qui disons ça.
Fabien Roussel du Parti communiste français. Éric Ciotti, lui, s'exprimait sur BFM sur les demandes de droit d'asile l'année dernière. 16 000 ont été accordés à des Afghans, 6 000 à des Bangladais et à des Ivoiriens, et cela en hausse d'un tiers.
Sur la Côte d'Ivoire, c'est assez révélateur d'ailleurs, Côte d'Ivoire et Bangladesh, ce sont ce qu'on appelle des pays sûrs. C'est-à-dire ce sont des pays qui n'ont pas de problème majeur en matière de liberté. On les accueille, ça veut dire que ce sont des fraudes aux demandeurs d'asile. Il n'y a aucune raison d'accueillir des personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, un pays où il y a des élections. Il faudrait que la procédure d'examen, qui est manifestement systématiquement frauduleuse, avec des récits de vie qui sont tronqués.
Et par ailleurs, Éric Ciotti fait une nouvelle fois le lien entre immigration et délinquance. Olivier Costa, il s'agit donc là d'un débat politique, mais est-ce un sujet pour les citoyens? On a le sentiment que la question de l'immigration et ses polémiques suscitent moins d'intérêt.
La politique, c'est toujours une question d'offre ou de demande. C'est-à-dire, dans certains cas, on a le sentiment que les responsables politiques sont à la remorque des citoyens. Ils vont écouter leurs préoccupations et mettre les sujets à l'agenda. Et dans d'autres cas, comme le cas de l'immigration ou le cas des réfugiés, c'est plutôt les responsables politiques qui mettent ça à l'agenda et qui imposent cette question comme une problématique centrale du débat. Mais là, il y a un contexte qui est très particulier. C'est ce contexte de compétition féroce à droite entre Mme Le Pen, entre M. Zemmour, entre les Républicains aussi, des gens de la tendance de monsieur Ciotti, qui sont en qui mieux dans la dénonciation de l'immigration, des réfugiés, les liens qu'on établit avec le terrorisme, avec la criminalité, etc. Et là, il y a vraiment un effet d'imposition sur l'agenda. La question de l'immigration, qui n'est pas forcément centrale pour les citoyens quand on leur pose la question, de fait, devient complètement centrale dans le débat politique.
Alors, vous venez d'en parler, l'actualité politique, c'est cette guerre des nerfs entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, lequel a bénéficié de ralliements de gens venus de LR comme du RN. Et il en parlait hier soir à Cannes devant Julien Chavanne de RFI.
Dans cette salle, vous êtes nombreux du Rassemblement National. Je veux que nous vous applaudissions. Vous êtes nombreux aussi à venir de LR. On vous applaudit aussi. Vous êtes tous les bienvenus, mes amis. La Reconquête est votre maison commune.
Sur France 3, Marine Le Pen dit ne pas être impressionnée du tout par le ralliement, entre autres, du médiatique Gilbert Collard.
Ce type de comportement, la manière dont ils le font, l'absence de courage, ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone pour me dire on s'en va.
C'est immoral.
C'est ce qui dégoûte, je crois, les Français de la politique. Bien. Donc moi, je voudrais dire aux Français, c'est important quand même, qu'ils ne se fixent pas sur ces gens-là. Ces gens-là, ils sont une minorité.
Éric Ciotti, qui est dans l'équipe de campagne de la candidate LR, Valérie Pécresse, a toujours dit qu'il était proche de Éric Zemmour. Mais aujourd'hui, il a une autre fidélité.
Je dis à mes amis droite, et il y en a qui sont séduits par Éric Zemmour, je dis de regarder la réalité des choses. Il ne peut pas battre Emmanuel Macron. Voilà, je voterai Valérie Pécresse au second tour pour battre Emmanuel Macron et elle gagnera.
Olivier Costa, il n'y a pas d'union des droites, mais il y a des passerelles entre les droites.
Oui, on le voit de plus en plus, donc des passages entre l'équipe de M. Zemmour et celle de Mme Le Pen, ou l'autre sens, ça fait assez prévisible, mais il y a eu aussi des passages depuis Les Républicains, avec M. Pelletier, qui a un peu fait le tour de tous les partis à droite, et qui maintenant rejoint M. Zemmour. Alors c'est un peu normal, on est voilà, dans la compétition électorale. Ce qui est plus intéressant et plus important, ça va être la possibilité ou pas que ces gens s'entendent en vue du second tour de la présidentielle, raison pour laquelle là on est un peu à couteau tiré, mais il ne faut pas insulter l'avenir. Et ça sera encore plus important pour les élections législatives quand il y aura certainement des alliances qui vont se nouer entre les deux partis d'extrême droite, celui de M. Zemmour et celui de Mme Le Pen, et peut-être, le sait-on, les Républicains pour les élections législatives.
Merci pour ces commentaires, Olivier Costa, directeur de recherche CNRS au CVPOF, invité de Dimanche Politique sur RFI.